Donc on va tout de suite commencer cette journée d'études avec Maxime Multin, qui est donc un étudiant en master avec spécialité norvégienne. Il va nous parler de l'introduction à la dérivation anagraphémique.
Merci. Je peux me passer du micro ou
Oui.
Alors, si vous avez pu lire les deux extraits de chaque côté du titre, c'est grâce à l'écriture. Ils nous transmettent des idées importantes venant de personnalités qu'ils sont aussi et nous ouvrent une porte sur le passé. Ce que je veux vous transmettre avec cette présentation aujourd'hui, c'est que l'écriture, cette chose qui semble banale et ordinaire, qui est au centre de nos journées, du matin jusqu'au soir, sans vraiment qu'on y prête garde, c'est l'une de nos inventions les plus importantes et influentes. J'ai essayé de résumer cette importance et cette influence en deux citations, enfin en deux phrases que j'ai formées avec des citations. L'écriture, c'est une des inventions culturelles qui ont radicalement modifié les compétences cognitives de l'espèce humaine. C'est une extension de notre mémoire qui nous permet de converser avec les morts, avec les absents, avec ceux qui ne sont jamais nés, à travers toute la distance du temps et de l'espace. L'écriture, elle a changé les conditions de stockage de l'information, et ce faisant, elle a été la solution au problème de la mémorisation, qui dominait la vie intellectuelle. En parallèle, elle a permis d'accroître la possibilité d'accumuler des connaissances. Donc, l'écriture, elle a été la réponse à un problème et à un besoin, celui de transmettre et de stocker l'information. Vous le savez certainement tous et vous l'avez remarqué, l'écriture n'est pas monolithique. Il y a une multitude d'écritures dans le monde. Certaines sont réputées difficiles, comme celle du chinois mandarin. D'autres sont réputées faciles, comme celle du coréen. La question qui a lancé cet exposé, c'est pourquoi ? On va donc s'éloigner de l'influence que l'écriture a eue sur notre société pour s'approcher de l'influence que l'écriture a sur nous en tant que scripteurs. Et on va étudier la problématique large de comment est-ce que le fonctionnement d'un système d'écriture influence nos compétences, nos performances et nos productions scripturales, et comment étudier cette influence. Cette influence, elle a déjà été relevée à certains niveaux, comme au niveau de la forme des graphèmes, qui peut avoir une influence à travers la généralisation miroir, dans des graphèmes comme « be »,« pe », »,« de », »,« que », qui ont une même forme et une position différente, qui peuvent être difficiles à identifier pour les enfants à cause d'un mécanisme cognitif. Ou sinon, l'orthographe, donc la correspondance graphème-phonème, va également avoir une influence, par exemple sur la production de texte et sa qualité. Et la généralisation miroir, c'est sur la facilité d'apprentissage des graphèmes. Donc, notre manière d'écrire a un impact sur nous, sur nos compétences. Et ce que montre la généralisation miroir, c'est que c'est des mécanismes cognitifs qui vont parfois être la raison de ces influences positives ou négatives. Donc on va se focaliser uniquement sur une caractéristique, par manque de temps, et c'est la dérivation anagraphémique. Donc on va voir ce que c'est, quelle forme elle prend, et dans quel système d'écriture elle est présente, et finalement, essayer de présenter une manière de l'étudier qui est à travers un alphabet construit. Donc l'anagraphémie, la dérivation anagraphémique, qu'est-ce que c'est ? Donc tout d'abord, l'anagraphémie, c'est un néologisme que j'ai construit sur la racine « ana », qui signifie « encelvant de » en grec ancien, et ajouté à « graphème », pour essayer de représenter ce phénomène de dérivation qui a lieu à partir d'un graphème et qui n'a pas encore été étudié, d'où le besoin d'une terminologie. La dérivation anagraphémique, c'est très simple, c'est une technique que l'on retrouve dans différents systèmes d'écriture et qui permet de dériver de nouveaux graphèmes à partir de graphèmes qui existent déjà. Donc en somme, la dérivation anagraphémique, c'est tout simplement une manière de créer de nouvelles lettres. La dérivation anagraphémique, elle peut se faire de manière très diverse. En français, on a une anagraphémie qui peut être réalisée avec l'ajout d'un accent, donc d'une diacritique, comme dans les lettres E, E et E accent circonflexe, qui sont toute une modification du graphème source E. Ou on peut voir de l'anagraphémie accidentelle, apparemment, comme à travers le changement de sens, par exemple, du graphème B, P, D, Q. C'est tous des graphèmes qui avaient une forme et qui ont évolué pour se ressembler, mais ça ne semble pas être de l'anagraphémie, enfin un processus. Un point très important de la dérivation anagraphémique, c'est qu'elle ne semble pas se faire au hasard. Elle ne renvoie pas des sons au hasard. L'anagraphémie, elle va se baser sur le son d'un graphème source et dériver de nouveaux graphèmes qui renvoient à des sons similaires. Par exemple, prendre exemple sur la dérivation de la lettre J dans l'alphabet latin. Pour qu'il y ait un graphème qui représentait le son IE, on est parti du graphème source I, qui était déjà présent dans l'alphabet, et qui représentait à la fois le son I et le son IE. Et à partir de ces deux paramètres, qui sont donc phonétiques et graphiques, on a dérivé un nouveau graphème, qu'on appellerait aujourd'hui J, on ajoute qui existait déjà et qui était une modification de J utilisée dans des contextes de I, utilisée dans des contextes spécifiques. Les lettres U et V aussi ont évolué bon, de majuscule à minuscule. Et ces deux évolutions, c'était pour une volonté de distinction entre deux phonèmes qui étaient représentés par un même graphème. Donc, en résumé, l'anagraphémie, ça marque des similarités phonétiques entre au moins deux sons dans la forme des lettres qui les représentent. Et ces similarités phonétiques dans la forme des graphèmes, on pourrait appeler ça des liens phonographiques, qui reposeraient sur le principe des prononciations similaires à l'oral vont s'incarner dans des lettres similaires à l'écrit, pour résumer. On peut juger de l'anagraphémie selon deux critères, car le degré d'anagraphémie dans les systèmes d'écriture du monde varie grandement. Tout d'abord, le premier critère, c'est le nombre d'anagraphèmes présents dans un système d'écriture. On en a peu en français, on en a plus en yiddish, plus en coréen. C'est important car c'est ça qui va donner à l'anagraphémie son influence plus élevée ou moins élevée, le nombre de graphèmes. Et le deuxième critère, c'est le fonctionnement du processus de dérivation. Il peut fonctionner de deux manières, pour généraliser. L'anagraphémie peut être normée, c'est-à-dire que les graphèmes sont dérivés d'une ou deux manières régulières, ce qui crée des liens phonographiques plus réguliers, ce qu'on peut voir en coréen dans la paire de graphèmes centrés autour du son K, qui se forme avec l'ajout d'un trait tout d'abord, et puis le redoublement du graphème source. A l'inverse, on peut avoir une anagraphémie irrégulière, dérivation de plusieurs manières vraiment très diverses, pas toujours claires, qui a pour conséquence de créer des liens phonographiques irréguliers, parfois difficiles à identifier, voire absents. C'est ce qu'on peut voir dans ces paires phonographiques en hindi. Donc selon ces critères, le français il a une anagraphémie faible et irrégulière. C'est une caractéristique secondaire du système d'écriture, mais à l'inverse, en coréen, on a une anagraphémie assez élevée, majoritairement normée. Cette caractéristique elle est donc principale, et elle peut être certainement utilisée dans l'enseignement, car elle organise les graphèmes en groupes phonographiques, ce qui a le potentiel d'aider à mémoriser et à associer graphèmes et phonèmes. Et d'ailleurs, cette organisation, on va pouvoir parfois même la retrouver dans l'ordre alphabétique en partie. Donc vous pouvez voir des groupes phonographiques en coréen qui sont tous dérivés de la même manière, pour pe, te et pe, différents sons qui sont autour de ces sons. Et à l'inverse, des groupes phonographiques en hindi, où parfois on voit la ressemblance, mais c'est moins simple, et l'anagraphémie se fait de manière différente. Donc c'est ça la première influence de l'anagraphémie, le potentiel d'influence, c'est qu'elle semble créer une cohésion dans un système d'écriture, et en liant différents graphèmes entre eux, dans un système qui est pourtant entièrement arbitraire et subjectif. Pourquoi notre manière d'écrire et de représenter la langue orale est-elle subjective ? Bah, tout simplement car on ne peut pas représenter les sons et les mots d'une manière objective. Un son ou un mot n'a pas de forme graphique. On ne peut donc que choisir de donner une valeur à un ou plusieurs symboles graphiques. Et l'anagraphémie va donner des principes pour essayer d'organiser et former ces graphèmes. L'autre point d'influence principal de l'anagraphémie, c'est le phénomène de déduction anagraphémique. C'est tout simplement le fait qu'on puisse déduire la forme d'un graphème qui est inconnu ou oublié à partir d'un autre graphème qui, lui, a été mémorisé. Ça serait possible, par exemple, en coréen, avec la paire autour de K, où il suffirait d'ajouter un trait et de redoubler, et de garder cette règle en tête pour l'appliquer à d'autres paires phonographiques. Cette dérivation, elle dépend beaucoup du fonctionnement de l'anagraphémie. Si elle est régulière, c'est simple. Plus elle est irrégulière, plus c'est difficile. L'anagraphémie, elle est en général très peu présente à un faible degré dans les systèmes d'écriture naturels. C'est pour ça que je passais par un système d'écriture construit, car son influence, elle est réduite. Et ça présente des problèmes d'étudier l'anagraphémie dans les systèmes d'écriture naturels. On pourra en reparler après, mais trouver des candidats, par exemple, pour étudier l'alphabet latin, c'est pas simple. Surtout qu'il faut qu'ils ne connaissent pas l'alphabet latin. Et avec un système d'écriture construit, on peut contrôler beaucoup de paramètres. Donc le prototype 1, c'est un système qui est organisé entièrement autour de l'anagraphémie dans l'organisation et la conception de ses graphèmes. Donc il va former des paires, comme entre les sons qui se ressemblent « g » et « que », qui vont avoir des graphèmes similaires. Chaque graphème va être dérivé d'une structure pour faciliter l'écriture et la position des graphèmes normés, et aussi pour construire l'anagraphémie. Elle va se construire sur le trait central, qui est réservé uniquement pour l'anagraphémie, et qui va permettre de faire la différence entre différents graphèmes, comme « g », « que », « de », « te », « be », « pe ». L'anagraphémie du prototype 1 représente une influence selon deux principes clés. Tout d'abord, dans le prototype 1, si je sais écrire un des graphèmes d'une paire, comme ge ou que, je peux forcément écrire le second graphème de la paire, parce qu'il me suffit ou d'ajouter un trait, ou de l'enlever si le trait est déjà présent. Donc ça réduit potentiellement le nombre de graphèmes à apprendre de moitié. Et le second principe, c'est que si je connais la prononciation d'un des deux graphèmes d'une paire, je peux potentiellement déduire la prononciation du second graphème et inversement. Si je sais quels sons sont associés à G, je peux déduire celui qui est associé à K, en connaissant la phonologie de la langue ou en ayant quelques principes phonétiques. Donc l'anagraphémie, ça représente un potentiel de réduction du nombre de graphèmes à apprendre et un potentiel de facilitation. Bon, vous me pardonnerez ça. D'association phonème-graphème, et ça présente aussi des fonctionnalités mémotechniques, puisqu'on peut se rappeler d'un graphème qu'on aurait oublié. Donc voilà, pour conclure cette présentation très très riche et condensée, la déduction anagraphémique, ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle donne des fonctionnalités, des possibilités supplémentaires à un système d'écriture. Ça ressemble à un outil qui pourrait aider le scripteur à apprendre dans son chemin pour apprendre un système d'écriture. Elle est frappante dans le prototype 1, qui est vraiment très normé, mais elle est aussi certainement présente en coréen, en français et en hindi. Et ce qu'on pourrait faire à travers le prototype 1, c'est justement étudier d'une manière indirecte ce phénomène de dérivation anagraphémique, tout en essayant de déterminer les facteurs qui entrent en jeu dans cette influence. Et avec tout cela, on pourrait commencer à explorer l'impact que l'organisation de notre langue écrite système d'écriture a sur nous, ses utilisateurs. Et avec cela, on pourrait découvrir de nouveaux mécanismes de notre cognition qui seraient peut-être responsables de cette influence positive ou négative sur nos compétences et nos performances scripturales. Merci beaucoup.
Quelqu'un a des questions ? Alors du coup, moi j'en ai une. Est-ce que ce sujet est en lien avec ton mémoire ?
Pas du tout. C'était un projet de mémoire que j'ai abandonné, que je poursuivrai peut-être en thèse, mais c'est quelque chose que je m'amuse à faire depuis quelques années, créer des alphabets, créer un peu des langues aussi. C'était un passe-temps, et puis je me suis rendu compte de ça, donc je me suis dit que c'était un sujet qui était potentiellement intéressant, et c'est pour ça que j'ai formé un projet de mémoire avec.
Et aussi, on peut dire que du coup... Elle est très peu utilisée en français finalement, et utile en français.
Elle est très peu utilisée, donc du coup elle est moins utile aussi parce qu'elle semble plus secondaire. Après, tout ce qu'il y a dans cette présentation, c'est extrêmement théorique et ça parle de plus de potentiel, car il faudrait vraiment étudier ça pour avoir des réponses. Mais en français, il semble qu'elle est applicable à peu de cadres, comme les accents par exemple mis sur la lettre E. Ou peut-être certaines consonnes comme V, U, ou W aussi. Mais c'est plus difficile, oui. Il y a moins d'influence, moins de potentiel.
Très bien, merci.
Oui.
Est-ce que vous savez si en didactique, notamment en coréen par exemple, où ça a l'air très courant comme procédé, c'est déjà utilisé ou recherché ?
C'est une des questions que je me pose. J'ai cherché des études qui parlaient de l'anagraphémie en coréen, j'en ai pas trouvé, enfin de ce phénomène. La prochaine chose que je vais faire, c'est justement de voir s'il est utilisé dans l'enseignement et comment aussi il est utilisé. Parce que ça pourrait... Le coréen représente vraiment le potentiel, le système d'écriture avec le plus de potentiel pour que l'anagraphémie ait été repérée ou qu'elle ait une influence. Parce que c'est d'ailleurs aussi un système d'écriture construit. Du coup, c'est ce que je compte faire. Oui ?
Est-ce que dans ce genre de période d'expérimentation d'alphabet, il y a une possibilité d'associer aussi des... parce qu'il y a souvent d'associer des lettres entre elles pour former d'autres sons. Est-ce que ce serait possible d'assommer ce genre d'alphabet ou ce serait plus compliqué ?
Ça serait possible de le faire. On voit aussi cette création à quelle partie on voit ça, mais on peut voir des nouveaux graphèmes qui sont créés avec la jonction de deux lettres différentes comme A et E. C'est possible. Après, c'est totalement une possibilité dans un système d'écriture construit qu'on pourrait explorer, oui, totalement. Bon, je pense que je vais laisser la place à d'autres personnes.
Très bien, alors nous allons continuer cette journée d'études sur la transmission.